Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
Nous n'avons rien de plus urgent en réalité, ni de plus important à faire, que de promouvoir la culture, l'éducation, la beauté. La beauté est en soi une éducation. Elle construit un pont entre les continents qu'aujourd'hui certains voudraient diviser.
Emmanuel Macron, c'était hier mercredi, le président français lyrique à Abu Dhabi pour inaugurer le Louvre des Sables, premier musée universel du monde arabe conçu et réalisé par l'architecte français Jean Nouvel. Un dôme de 180 mètres de diamètre, 7850 étoiles de métal qui font pleuvoir des gouttes de lumière sur les visiteurs. À l'intérieur, 600 œuvres censées rendre compte de l'universalité de la culture, dont la moitié prêtée par 13 musées français. Quels sont les enjeux d'un tel projet? Le Louvre d'Abu Dhabi, symbole du soft power français ou au contraire que les pétrodollars peuvent tout acheter? Peut-on tout exposer, tout montrer à Abu Dhabi? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Claire Baumelard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro, vous avez suivi ce projet depuis ses débuts. Face à vous, Alexandre Caseroni, bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Caseroni, vous êtes politologue, chercheur à l'École normale supérieure. Votre dernier ouvrage, Le miroir des chairs, musées et politiques dans les principautés du Golfe Persique, est paru aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux d'être avec nous. Claire Baumelard, c'est un projet qui a été initié au milieu des années 2000 par le ministre de la Culture émirati et validé en 2007 par Jacques Chirac dans les derniers mois de sa présidence. Quel était l'objectif initial? Comment a été présenté le projet à l'époque?
À l'époque, c'était un projet qui était destiné à... On savait pas très bien, c'était quelque chose qui était entre la culture et la diplomatie, où on avait des bonnes relations avec Abu Dhabi, qui nous demandait de l'aider à monter sa politique culturelle. Il y avait un énorme chèque à la clé, puisque on sait que cet accord entre les deux pays a rapporté 1 milliard d'euros, ou va rapporter 1 milliard d'euros sur 30 ans. Donc on est parti un peu comme ça, fleur au fusil. Il y avait Renaud de Dieudevable, le ministre de la Culture de l'époque, qui croyait dur comme fer. Et puis il s'est dit, bon ben j'y crois, je le fais. Et puis il a essayé d'entraîner derrière lui.
Alors Alexandre Caseroni, vous commencez votre ouvrage par cette phrase « Le Louvre Abu Dhabi n'est pas le Louvre des Sables ». Qu'entendez-vous par là? Que ce n'est pas un projet isolé, sorti de nulle part?
Oui, en fait, donc moi, mon ouvrage est fondé sur une thèse de doctorat entre 2007 et 2013. Donc quand je suis allé pour la première fois à Abu Dhabi, c'était fin 2007, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y avait des institutions culturelles. Et plus largement, qu'il y avait déjà des musées dans tous ces états de la rive sud du Golfe Persique, que sont le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, que j'appelle les principautés du Golfe Persique. Et alors que de Paris, l'expression qui aujourd'hui colle complètement au projet, hein, puisque maintenant pour la promotion du projet, on parle de Louvre des Sables, de Venise des Sables, alors qu'à l'origine, l'expression était apparue chez les détracteurs. En 2006. Donc, alors que donc depuis Paris, l'image qu'on avait, que ce soit les détracteurs ou les défenseurs du projet, c'était que c'est la culture qui arrive dans un désert. Et ça m'a intéressé de me rendre compte que on désertifiait dans notre regard une réalité locale qui avait déjà connu en fait la modernité. Et puis toute mon enquête n'a fait que me renforcer dans cette vision, c'est-à-dire que non seulement j'ai découvert qu'ils avaient des musées nationaux ouverts tous hein, dans les années 70, fin des années 70, tous ces états de la rive sud ont tous un grand musée national, mais qu'en plus, avant ces musées nationaux, qui datent des années 70, ils avaient eu, à compter des années 1920, ce qu'ils appelaient eux-mêmes des clubs culturels, qui ont été des lieux qui, dès les années 40-50, sont les cœurs de la vie politique locale, en plus d'être les centres de la vie culturelle. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces clubs culturels? On y montre les premières représentations théâtrales, on y organise les premières expositions de peinture, en particulier figurative, on y organise des conférences autour de la poésie, on y invite et on y reçoit les artistes du reste du monde arabe. Et donc, complètement à l'encontre de cette idée d'un Louvre des Sables, j'ai en fait découvert que l'importation finalement de la modernité culturelle à l'européenne avait déjà un siècle d'âge. Alors pourquoi, non seulement dans notre regard à nous, c'est un désert culturel, mais aussi dans le discours officiel, parce que les autorités locales aussi projettent cette idée d'un désert culturel. Elles ont fait leur cette expression de Louvre des Sables.
Alors Claire Baumelard, quand on dit que c'est le premier musée universel du monde arabe, est-ce que vous partagez l'analyse d'Alexandre Caseroni? C'est un peu exagéré ou est-ce qu'il y a quand même des nouveautés avec ce projet?
Non, il y a des nouveautés parce que ce projet, il est construit avec le Louvre, dont il achète la marque et dont il bénéficie de l'aide pour monter l'intérieur du musée, mais aussi de 13 autres institutions culturelles, musée d'Orsay, le Centre Pompidou, la BNF, etc. Donc, il fonctionne, il va montrer des œuvres d'institutions, de 13 institutions françaises. À partir de ce moment-là, et plus celles qu'il a acquises. À partir de ce moment-là, oui, il s'est engagé, ce Louvre à Abu Dhabi, à être un musée comme on en voit en Europe, c'est-à-dire qui ne récuse aucune période, aucune civilisation, ni même aucune religion.
Donc, ça, c'est l'aspect universel du projet.
Ça, c'est l'aspect universel du projet. Et de fait, dans le monde arabe, ce n'est pas quelque chose de très courant. On avait vu, par exemple, le musée Bardo à Tunis, qui a des œuvres liées au judaïsme et à la chrétienté. Bon, c'est ce qui lui est arrivé. Il y a eu un attentat. Donc, c'est à la fois pas classique et c'est presque un risque de le faire. Donc, qu'ils le prennent, moi, je trouve que c'est admirable.
Et courageux.
Oui, et courageux.
Alexandre Caseroni, pourquoi est-ce que les Émirats ont tant voulu ce musée qui, on le rappelle, il a coûté une fortune, à 600 millions d'euros rien que pour la construction, 1 milliard d'euros sur 30 ans pour acquérir les droits de la marque Le Louvre. Quel est l'intérêt des Émirats arabes unis dans ce projet, et d'Abu Dhabi en particulier?
Il y avait déjà un intérêt local très particulier, propre à Abu Dhabi, qui ne permet pas de comprendre pourquoi on a le même phénomène au Qatar, mais qui, en l'occurrence, comme ce musée inauguré, est intéressant à rappeler. En 1990, l'émir qui est au pouvoir à Abu Dhabi, le cher Zayed, qui est là depuis 1966, arrive au terme de sa vie. Et donc, il ouvre le bal de la succession entre tous ses enfants et il laisse 60 enfants. Et donc, début des années 90, les enfants de sa favorite, de son épouse favorite, Sheikha Fatima, commencent à avoir, à approcher la fin de la vingtaine. Donc, c'est le moment idéal pour ouvrir, en fait, la lutte entre les enfants, pour savoir qui sont les meilleurs, pour leur donner le pouvoir. Et dans ces années 90, une faction va réussir à s'imposer contre les autres, entre tous ses demi-frères. C'est celle du prince héritier actuel, le cheikh Mohammed bin Zayed. Ils sont cinq garçons. Et c'est le plus jeune de ces garçons, qui s'appelle Abdallah bin Zayed, qui est le ministre actuel des Affaires étrangères des Émirats Unis, qui a eu l'idée, en fait, de se
mettre ministre de la Culture à l'époque.
Voilà. En 92, il a 25 ans, il est nommé sous-secrétaire au ministère de l'Information et de la Culture. 97, il devient ministre du ministère de l'Information et de la Culture. Sauf que, à l'époque, la vie culturelle à Abu Dhabi, c'est pas ce ministère fédéral. La vie culturelle à Abu Dhabi, c'est une organisation semi-gouvernementale qui s'appelle la Fondation Culturelle, qui est un lieu très prestigieux avec un bâtiment moderniste où se trouve la plus grande bibliothèque publique des Émirats Arabes Unis, où s'organise dans les années 2000 un festival de cinéma international, il y a des cours de ballet, il y a des publications, par exemple, ils traduisent pour la première fois l'Iliade, d'Homère, oui, en langue arabe, il y a des publications d'ouvrages d'art avec des nus à l'intérieur, qui font d'ailleurs scandale. Et ce lieu très prestigieux où vont tous les étrangers quand ils arrivent à Abu Dhabi, échappe au contrôle de ses cinq frères, et en particulier de celui qui est au ministère de la Culture. Et c'est ce qui va le pousser, en fait, à lancer ce projet Louvre Abu Dhabi, c'est le refus de la famille qui dirige cette institution, qui s'appelle la famille des Al-Souaidi, qui est une des plus grandes familles d'Abu Dhabi, de céder cette organisation à ce jeune homme qui avait à l'époque 27-30 ans.
C'est donc une affaire interne plus qu'un rayonnement culturel mondial.
Oui, en fait, fait la microsociologie, au départ, on a, en fait, ce Louvre Abu Dhabi qui apparaît comme un château de Versailles qui a son château de Vaux-le-Vicomte. Et le château de Vaux-le-Vicomte du Louvre Abu Dhabi, c'est la fondation culturelle.
Claire Baumelard, vous avez écrit dans le Figaro que le Louvre Abu Dhabi incarne la capacité de la France à rayonner dans le monde. C'est comme ça que vous percevez les choses?
Oui, parce que c'est un projet. Ben, il suffit de voir l'inauguration hier soir. Il y avait à peu près tout ce qui comptait de personnalités culturelles françaises. Donc, on sentait une immense fierté de tout le monde. Et c'est vrai que il y a eu une sorte de marasme économique en France. Il y a toutes ces institutions qui sont publiques voient des baisses budgétaires, mais elles savent quand même qu'à l'étranger, on a envie d'elles. Donc,
il y a eu beaucoup de résistance quand même de la part du milieu culturel français.
Pas de tout. Ça a été très divisé. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Il y a eu débat. C'est vrai qu'il y a eu une partie du monde muséal et plus singulièrement du Louvre, hein, qui ne voulait pas mettre des œuvres anciennes qui appartenaient à ce Louvre, qui est le plus grand musée du monde, ne voulait pas le mettre précisément dans le sable. C'est-à-dire, ils avaient cette idée, on va faire comme ça dans un avion, on va faire traverser peut-être la Joconde, bien qu'il n'y en ait jamais été question.
Qui va aller les voir, ces œuvres, finalement? Est-ce que c'est la population locale ou est-ce que ce sont les touristes? Est-ce que ce sont
alors, eux-mêmes ne sont pas d'une clarté terrible à propos de leur public. Ce que l'on comprend, c'est que il y a effectivement, comme dit monsieur, un enjeu local, donc ils espèrent bien que les gens de la région vont venir et qu'il y aura une forme de démonstration de force pour eux, parce que il y a quand même dans ces petits états du Golfe une forme de compétition autour de la culture. Donc il y a ça, la capacité à attirer les gens du coin, et je pense aussi qu'ils visent les Chinois, les Indiens et tous ces gens qui viennent en vacances, qu'on l'envoie à Dubaï par exemple. La question de savoir si les Européens, qu'ils soient Français, Allemands ou Anglais, vont aller un jour là-bas, n'est pas tout à fait tranchée, parce que c'est tout de même loin pour un Européen qui est gavé de musées, qui a tout à portée de main. Il faudrait peut-être compter sur... Moi, je pense que l'exposition universelle Dubaï 2020, qui va attirer énormément de monde, toutes les expositions universelles attirent du monde, peut peut-être amener un certain nombre d'Européens à pousser 50 minutes plus loin et aller voir le Louvre à Abu Dhabi.
Est-ce que vous pensez aussi, Alexandre Caseroni, comme Emmanuel Macron, que c'est un instrument d'éducation, ce musée?
Ben, ça fait partie des discours officiels des autorités des Émirats arabes unis de dire qu'ils ont besoin en fait de l'aide des Occidentaux pour éduquer leur propre population. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que dans les années 80 et 90, la culture à Abu Dhabi n'est pas du tout aux mains des islamistes. Et cette fondation culturelle contre laquelle s'est créé le projet Louvre Abu Dhabi était un lieu en fait idéologiquement qu'on peut qualifier de nationaliste arabe et libéral, où il y a eu des polémiques à cause de notamment la publication d'un livre d'art où il y avait Adam nu. Il y a eu un festival de cinéma aussi où ils ont montré un garçon qui sortait nu de la mer, un film tunisien, ça a posé problème. Donc ce contre quoi en fait ce Louvre Abu Dhabi s'est construit, ou sur les ruines de quoi s'est construit Abu Dhabi, n'est pas un environnement aux mains des islamistes. Et en fait... on voit que ce discours, en fait, que se renvoient les autorités locales et que reprennent les autorités françaises, noircit la population locale et donne l'image d'une population émirienne qui serait faite de gens paresseux, incompétents et islamistes.
Vous parlez de grille de lecture évolutionniste de la société qu'incarnerait ce musée. L'apprentissage d'un monde normalisé avec comme aboutissement la démocratie. Ça, c'est un mythe que vous... Que vous dénoncez ?
Moi, je dénonce rien du tout. Moi, j'ai essayé de voir où était l'objet politique.
Quel est l'intérêt, alors, dans ce sens-là ?
Oui, dans quel sens, vous répétez ?
L'intérêt des autorités à avoir ce discours ?
Parce que dans les années 80, il se passe quelque chose de très important, que même la littérature scientifique n'avait pas bien cerné pour les États de la côte, c'est que la population nationale des Émirats arabes unis, du Koweït, du Qatar de tous ces pays de la côte, se transforme en dehors des familles iraniennes en une classe moyenne. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 70, quand tous ces États accèdent à l'autonomie, ce sont des États riches. Et donc, les familles régnantes vont construire des appareils étatiques très développés. Ces appareils étatiques vont mine de rien donner du pouvoir à ceux qu'ils emploient, c'est-à-dire la population locale extérieure à la famille régnante qui est transformée en fonctionnaire, en employé de l'État. Dans les années 80, ce système arrive à maturité. Et n'oublions pas, hein, contrairement à beaucoup d'autres pays extra-européens, il y a beaucoup d'argent. Donc c'est des États très bien dotés. Ces gens, dans les années 80, forts de ce contrôle de l'État, vont commencer à demander une nouvelle redistribution du pouvoir pour avoir une nouvelle distribution des richesses. Et donc dans les années 80, la famille régnante voit émerger ce monde des fonctionnaires, cette classe moyenne fonctionnarisée, comme une force d'opposition. Et donc l'État devient un problème. L'État moderne, qui emploie la population nationale sortie de l'éducation moderne, devient un problème. Et dans les années 90, au Qatar, puis à Abu Dhabi, ils vont en fait chercher à marginaliser cet État et à faire en sorte que toutes les grandes politiques publiques importantes, celles qui monopolisent les fonds les plus importants, mais aussi celles qui permettent de monopoliser l'attention des Occidentaux, à qui on délègue la défense du territoire, passe uniquement par la famille régnante. Et que cette classe moyenne, cet État moderne ne soit plus impliqué dedans. Ce qui donne en fait ce Louvre Abu Dhabi, qui est localement géré par une agence totalement autonome, non seulement de l'État moderne, des ministères, mais aussi qui n'emploie pas les fonctionnaires. Alors qu'en partie française, il y a une agence aussi, il y a quelque chose qu'on appelle l'agence France Muséum. Mais la grande différence, c'est que l'agence France Muséum est sous tutelle du ministre français de la Culture et que l'agence emploie des fonctionnaires, des employés de la fonction publique. À Abu Dhabi, pas du tout. Les Émiriens qui sont face à cette partie française, ce sont des gens qui sont totalement en dehors de l'État.
Claire Baumelard, quand vous évoquez le Louvre qui est devenu une marque, il y aura aussi un musée Guggenheim à Abu Dhabi, en partenariat avec le musée Guggenheim de New York. Ça semble un peu surprenant, un peu contradictoire, cette idée de faire du Louvre ou de l'art de manière générale une marque, quelque chose qu'on peut commercialiser avec la manière dont le projet nous est présenté aujourd'hui.
Oui, enfin c'est pas vraiment une extension du Louvre. Effectivement, c'est sa marque qu'il a vendue, mais aussi son savoir-faire. Il a aussi le Louvre a aussi prêté main forte pour tous les acquisitions. Donc ça a été beaucoup plus qu'une marque. Ça a été un savoir-faire, des œuvres, des conseils, de la formation. Ils ont reçu énormément de conservateurs du Louvre à Abu Dhabi au Louvre. Donc il y a eu beaucoup plus qu'un simple achat de nom. C'est plus intéressant que ça.
Mais ça veut dire quand même qu'il y a une commercialisation de l'art français, ou est-ce qu'on est comment est-ce que c'est comme ça que ça a été perçu en tout cas dans les milieux culturels français, on l'évoquait
au départ, tout à l'heure. Oui, au départ, c'est-à-dire en 2007-2008 quand cet accord a été signé, oui, au départ, il y a eu un certain nombre de gens du Louvre, comme je le disais, ou de la direction des musées, qui disaient c'est la marchandisation de l'art, c'est-à-dire on loue nos œuvres, ce qui était un tabou à l'époque puisque les grands musées fonctionnait par un système de prêts réciproques. Bon, depuis, on en est un peu revenu. Nombreux sont les musées qui vendent des expositions clés en main qui tournent dans le monde entier. Donc, on a un peu écorné ce principe, même s'il reste en vigueur pour les grands musées. Heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas fonctionner, on ne pourrait pas faire de grandes expositions. Donc, tout ça a beaucoup bougé en 10 ans. Et je pense que les cris qu'il y avait en 2007, on ne les entendrait plus si l'accord était signé aujourd'hui. Alors évidemment, on peut toujours imaginer des scénarios un peu fantasques, mais je crois vraiment qu'un accord comme ça signé en 2017 ne provoquerait pas du tout la même opposition, y compris au sein du Louvre.
Dernière question, il nous reste 30 secondes. Alexandre Caseroni. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y ait des œuvres des nus, on a des œuvres qui représentent toutes les religions, toutes les civilisations. Comment est-ce que c'est perçu par la société émiratie ?
Ben, je pense pas que ce soit des enjeux politiques au niveau local de savoir si on expose un nu ou pas. Ça, c'est des questions. Au Louvre Abu Dhabi, il y a des nus, il y a un Christ crucifié, alors qu'en islam, le Christ n'a pas été crucifié. Il y a des judaïcas. Et tout ça a été acheté avec l'approbation et l'encouragement même de la famille régnante pour en fait prendre le contre-pied de toutes les idées reçues qu'on peut avoir en France sur le monde musulman actuel, pour projeter en direction de Paris l'image d'un monde musulman idéal. Mais là ne sont pas les enjeux locaux. Localement, c'est la question des relations, par exemple, entre sunnites et chiites.
Merci beaucoup à tous les deux, à Claire Baumelard, grand reporter au Figaro, Alexandre Caseroni, chercheur à l'École normale supérieure, d'avoir participé à ce débat. Merci également à Florence Ponce, au service documentation de RFI, pour leur aide dans la préparation de cette émission et la réalisation. Il y a